Ouvrons la parole de Dieu sans plus tarder, mes frères et sœurs, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, et au verset 2, un texte qui nous indique le but de la souffrance. Le but de la souffrance. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2. C'est un texte auquel j'ai souvent fait allusion, un texte que je vous encourage presque à apprendre par cœur, parce que je peux vous assurer que ce sont ce genre de versets qui vous aideront à comprendre combien Dieu peut permettre parfois des épreuves, ou combien Dieu utilisera les épreuves. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, je rassure, ça concerne aussi les sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Rien que ce verset déjà nécessite un peu de réflexion, non ? C'est, voyez, bon, je veux pas faire de l'exégèse, mais regardez. Regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous vous rendez compte? Des fois, on regarde les épreuves des autres. Allez, on va dire la vérité. Est-ce que des fois, vous avez dit, tiens, celui-là, s'il traverse une épreuve, c'est peut-être ce qu'il a besoin. Est-ce qu'on a déjà pensé ça? Ben oui, moi le premier. Mais il ne nous est pas demandé de nous réjouir des épreuves des autres. Il nous est demandé de nous réjouir de nos épreuves. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve, elle doit être l'épreuve de la foi. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Donc vous avez là, dans ces trois versets, le but de la souffrance. Il faut que l'épreuve soit l'épreuve de la foi, qu'elle produise la patience. Et la patience doit accomplir une autre œuvre afin que nous devenions parfaits. Alors ça, c'est un mot qui nécessite peut-être un peu d'explication. Être parfait, c'est quoi pour vous être parfait? Et encore. Être parfait, vous voyez, c'est... Pour beaucoup de gens, être parfait, c'est être infaillible. Être parfait, ce n'est pas être infaillible. Est-ce que quelqu'un peut être infaillible? Non, personne ne peut être infaillible, personne. Mais être parfait, regardez, dans Jacques au chapitre 3, verset 2, il faut comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre les épreuves si on ne comprend pas ce que je vous dis. Jacques chapitre 3, verset 2. Bon, il est demandé qu'on ne soit pas plusieurs enseignés, parce que nous serons jugés sévèrement. Verset 2. Nous branchons tous, donc ça prouve qu'on est tous, voyez, faillibles. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors, je tiens à le dire parce qu'il y a des chrétiens qui se culpabilisent parce qu'ils interprètent très mal ce verset. Mais on peut le lire. C'est bien parce que j'en parle avec les responsables toujours. 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, verset 2. Au verset 2, il y a des conditions. Quand il est dit « il faut », c'est un impératif. Donc il faut... Par exemple, 1 Timothée chapitre 3, verset 2, il faut que l'évêque soit irréprochable. D'accord? Un ancien, lorsqu'on éprouve quelqu'un, c'est écrit dans la Bible qu'on doit éprouver les gens avant de les désigner comme anciens? Oui. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Alors, irréprochable, c'est le même sens, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'être infaillible. Quelqu'un d'irréprochable, c'est quelqu'un, quand il fait une erreur, eh bien, il l'assume. J'ai fait une erreur, je vous demande pardon. C'est ça être irréprochable. Ce n'est pas ne jamais commettre d'erreur. Il y a des gens, vous voyez, ils sont tout le temps sous pression, ils sont tout le temps en train de se culpabiliser. Mais c'est ça être irréprochable. Oui, j'ai commis cette erreur. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû me soumettre aux anciens. J'aurais dû me soumettre à la responsable d'eux. Je ne l'ai pas fait. Eh bien, je vais me demander pardon. C'est ça être irréprochable. Donc, vous pouvez méditer le chapitre de Jacques. L'épreuve, c'est terrible l'épreuve. Oui ou non ? Parce que pour beaucoup de gens, l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve de la foi, c'est l'épreuve du doute. Et le résultat, c'est que les gens abandonnent Dieu. Il faut que l'épreuve, n'importe quelle épreuve, devienne l'épreuve de la foi. C'est une des raisons pour laquelle on est ici ce soir. Alors je voudrais parler ce soir, prendre un texte pour parler de la maturité spirituelle. Parce que quelqu'un qui comprend l'épreuve, il ne peut que mûrir spirituellement. Parce que pas qui comprend l'épreuve. Qui accepte l'épreuve. Parce que des fois, on ne comprend pas l'épreuve. Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer. Il y a des choses, on les comprend des fois des années après. Des fois, il faut des années pour dire, ah, mais j'ai traversé ça. Ah, ben, c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que j'en avais besoin. Mais il y a des choses qu'on ne saura pas sur terre. Alors, on va partir de l'histoire de Lazare. C'est dans Jean, au chapitre 11, vous connaissez tous l'histoire de Lazare. Même les inconvertis savent que dans la Bible, il y a une histoire où Jésus a ressuscité un certain Lazare. Même des inconvertis en ont entendu parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc nous savons, nous les chrétiens, que Jésus a procédé à trois résurrections, entre autres celle de Lazare. Alors, c'est bien, on connaît la fin. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Eh bien, il y a eu la gloire de Dieu, cet homme qui était en état de putréfaction, il est ressuscité, il y a plein d'enseignements derrière. Alors nous, quand on connaît l'histoire et qu'on l'a lu plusieurs fois et qu'on connaît la fin, on a du mal à comprendre ce que les gens ont vécu avant. Est-ce que vous comprenez? Quand on sait comment Goliath a terminé, bon, on se met pas en tête ce que David a pu vivre avant qu'il ne le tue. Est-ce que vous pensez qu'il a pu avoir quand même des émotions, des sentiments? Vous comprenez? Mais nous, quand on lit, on ne voit pas ces choses. On ne les discerne même plus. Pourquoi? On n'y pense même pas. Pourquoi? Parce qu'on sait comment l'histoire se termine. Et c'est ça qui nous joue souvent des tours. Alors, c'est bien de connaître des histoires par cœur, mais c'est bien de temps en temps de revenir en arrière et de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'elles ont dû vivre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont pu penser? Alors, dans Jean, au chapitre 11, il y a cette histoire dont Lazare tombe malade. Lazare tombe malade, c'est une épreuve. Et il tombe vraiment malade. Alors, verset 3, on va faire les choses de manière graduelle. Vous allez voir. C'est important, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez que nous devons mûrir si on veut être debout quand Jésus viendra. Vous voulez être debout quand Jésus viendra? Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas debout, qui vont souffrir dans le désarroi pour la simple unique raison qu'ils n'auront pas pris le temps de mûrir spirituellement. Et c'est ce qu'on doit faire ce soir, c'est ma responsabilité de nous aider à mûrir. Donc, Lazare tombe malade, dont les deux sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, elles savaient où il était parti faire une mission d'évangélisation, donc elles l'envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, alors c'est écrit, celui que tu aimes, il est malade. Lazare était aimé de Jésus. Lazare était un homme certainement qui était aisé financièrement avec Marthe et Marie et il soutenait le ministère de Jésus. Et ce texte veut que nous sachions, au verset 5 c'est également écrit, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Est-ce que Jésus aime tout le monde? Oui, mais il peut y avoir une affection qui soit plus grande, comme il nous est dit que Jean, c'était le disciple que Jésus aimer. Pourquoi? Parce que même si Jésus nous aime à tous, il est certain qu'il peut y avoir une communion de plus en plus grande avec le Seigneur en fonction de notre intimité avec lui. Donc cette famille était aimée. Dieu a voulu que ça soit bien précisé. Elles envoyaient rechercher Jésus pour qu'il vienne guérir leur frère. C'est normal, Jésus était parti à quelques kilomètres dans un village, il était parti pour guérir des gens, oui ou non? Donc si Jésus partait, entre guillemets, pour guérir des étrangers, à combien plus forte raison, il allait revenir pour guérir Lazare, qui était son ami. Oui ou non? Oui, vous le voyez comme ça? Mais bien sûr. Donc, les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Au verset 6, regardez bien. Il faut, mes frères et sœurs, ce que je voudrais, c'est également vous enseigner à faire une méditation personnelle. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il reste 2 jours encore dans le lieu où il était. Voilà, là commence l'épreuve. D'un côté, Jésus est au courant que la personne, elle est malade, c'est un de ses amis. Et d'un côté, il décide de ne pas intervenir. C'est là que commencent vraiment les combats. J'ai prié, j'ai fait connaître à Jésus tel problème et il n'intervient pas. Voilà commence une véritable épreuve, un véritable combat. Qu'est-ce qui se passe? Jésus le sait et pourtant, il n'agit pas. Pourquoi il ne vient pas? On est ses amis. Et s'il y en a eu sur la terre qui peuvent être catalogués vraiment comme les amis de Jésus, c'est bien eux trois. Il y a 7 textes dans la Bible qui nous parlent de Béthanie. Quand vous étudiez ces 7 textes ensemble, je vous assure, vous auriez eu envie de prendre un repas, au moins une fois dans votre vie, dans cette maison, en présence de Jésus, croyez-moi. Oui ou non? Croyez-moi, moi j'aurais aimé y être. Hein. J'aurais donné cher pour passer une après-midi là, dans la femme, avec eux. Et c'est là que les questions, pourquoi il n'est pas venu? Elles ont dit, pourquoi il ne vient pas? Ce n'est pas possible. Il est là à côté, il ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors après, moi, j'ai ajouté un truc dans mes notes, mais c'est moi qui l'ajoute. Hein, parce que je pense quand même que Marthe, Marie et Lazare étaient vraiment remplis de piété. Mais vous savez, c'est vite fait de dire, tiens, mais pourquoi il n'intervient pas? Avec tout ce qu'on a fait pour lui. Est-ce qu'elles avaient fait beaucoup de choses pour Jésus, ces femmes et cet homme? Oui. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, Jésus, je pense que si on doit lui poser un jour la question, la maison où il a eu le plus de plaisir sur la terre, je suis sûr que c'est là. En tant qu'amitié humaine, je suis sûr. Alors, bon, je ne pense pas qu'elles ont dû le dire avec tout ce qu'on a fait pour lui. Mais c'est vite fait de se laisser piéger quand on est dans l'épreuve, de dire oui, quand même, avec tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'est vrai ça ou non? Avec tout ce que j'ai fait pour l'Église, avec tout ce que j'ai donné, comment ça se fait que ça en soit là, Dieu ne soit pas intervenu, etc., etc. Alors, il faut qu'on comprenne quelque chose, c'est que Dieu est au courant de tout. Regardez au verset 11. Jésus est au courant. Est-ce que Jésus était au courant de ce qui se passait? Ben oui. Jésus, est-ce qu'il est au courant de votre épreuve? Ben oui. Jean chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Ses disciples lui disent, « Ah, mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare, il est mort. » Donc, Jésus était informé. Il faut que nous sachions une chose. C'est que dans toutes notre épreuve, Dieu est au courant. Et je crois qu'il faut faire attention, de faire très très attention, de ne pas donner d'ordre à Dieu. Ou alors de lui expliquer la situation. Tu vois, vous ne riez pas, hein? Je l'ai entendu. Tu vois, Seigneur, cette femme-là que j'ai croisée, tu sais, dans l'ascenseur, là, cette femme, tu vois, qui c'est, Seigneur? Cette femme qui avait la robe rouge, là, avec les cheveux blonds. Écoutez, je veux bien qu'on informe le Seigneur, mais c'est ridicule. Quand vous comprenez ce que je veux dire. Et de là à donner des ordres à Dieu, on a vite fait de déborder. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il est au courant de tout. Vous le croyez? Ou alors il n'est pas tout puissant. Si vous pensez que Dieu n'est pas au courant de tout, alors il n'est pas tout puissant. Il est puissant, comme le diable, qui est puissant. Mais tout puissant, ça veut dire que Jésus sait tout et qu'il peut tout. Donc, le Seigneur, il est au courant. Lazare, il est mort. Pourquoi Jésus n'est pas venu? Il les a portés dans le commandement. En plus, regardez le verset 15. Regardez, parce que quand même, il faut réfléchir, mes frères et sœurs. Si nous voulons mûrir, il faut réfléchir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Jésus est en train de dire à ses apôtres, Lazare, il est mort. Donc, c'est terrible le deuil quand même, non? Un de ses amis vient de mourir. Deux de ses deux meilleurs amis, parce que c'était vraiment des amis à Jésus, sont dans quoi? Dans la douleur, dans le chagrin, oui ou non? Et regardez ce que Jésus dit. Non mais moi, franchement, là, quand j'ai analysé ce texte, je me suis dit, il y a un problème. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Est-ce que vous réfléchissez, mes frères et sœurs? J'aimerais savoir la tête qu'ont fait les disciples quand Jésus a dit, je me réjouis. Son meilleur ami vient de mourir, et lui, il dit qu'il se réjouit. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Et il faut comprendre, cela enseigne quelque chose. C'est que derrière toutes les épreuves, écoutez bien mes frères et sœurs, derrière toutes les épreuves, il y a un plan. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Derrière toutes les épreuves. Écoutez-moi bien, on l'a lu dans Jacques, considérez toutes les épreuves, comme un sujet de joie. Alors c'est vrai que sur le moment, on ne peut pas se réjouir. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux qu'une épreuve, pour le moment, c'est un sujet de tristesse. Après, ça peut devenir un sujet de joie. Mais il nous faut comprendre que toutes les épreuves, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, toutes les épreuves ont pour but un dessein éternel, un plan qui vaut la peine, même si on n'a pas l'explication ici-bas. Toute la douleur, tous les pleurs, toutes les peines éprouvées, ça en vaut la peine. Jésus aurait pu leur dire, c'est pour ça qu'il faut marcher par la foi. Est-ce que Jésus aurait pu leur dire, écoutez-moi, vous le gardez pour vous. Mais Lazare, je vais faire quelque chose de merveilleux qui va étonner tout le monde, tout le village. Ou alors, même, il aurait pu faire mieux. Il avait écouté, je vais ressusciter Lazare. Est-ce qu'il aurait pu leur dire? Est-ce qu'il le savait? Oui, il le savait, on ne l'a pas lu, je l'ai volontairement. Je n'ai pas lu le verset 4. Mais voyez bien que déjà, le Seigneur l'avait préparé, il le savait. Je ne l'ai pas lu esprit, le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, la foi, c'est croire sans explication. Une épreuve, si on vous dit comment ça va se finir, ce n'est plus une épreuve. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes au chômage depuis 2 ans, si je vous dis, voilà, vous aurez du travail le 1er mars 2016, c'est plus une épreuve. L'épreuve, c'est une vraie épreuve quand vous ne savez pas. Jésus aurait pu le leur dire. Il a sous-entendu certaines choses, comme la parole de Dieu nous permet de comprendre certaines choses, mais la foi, c'est croire sans explication. La foi, c'est croire sans voir. C'est ça la vraie foi. Alors après, il y a les deux interventions des sœurs. Quand il revient, il décide de revenir. 4 jours après, il est en état de putréfaction. Il est vraiment mort, très mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est vraiment mort. Quand Jésus a ressuscité la petite fille de 12 ans, elle venait juste de mourir. Donc elle devait être encore toute rose, etc., habillée, je ne sais pas comment elle est habillée. Mais on aurait pu croire qu'elle dormait. Il fallait la même puissance pour ressusciter la petite que pour ressusciter Lazare. Mais ça ne donne pas la même image. Une chose est sûre, il était vraiment mort et tout le monde savait qu'il était mort. Alors, Marthe, au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous voyez, elle savait que Jésus aurait pu intervenir. Au verset 32, c'est au tour de Marie qui est rejointe par le Seigneur Jésus-Christ. Pareil, au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous voyez, elles avaient vraiment la foi, ces deux sœurs. Elles avaient la foi dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ah, s'il avait été là, alors bien sûr qu'il n'y a pas de reproche, mais elles sont là, elles sont dans la souffrance, elles ne comprennent certainement pas, mais Jésus, il est là. Alors, voyez, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu au verset 15 que Jésus se réjouit. Qu'est-ce qui se passe au verset 35? Qu'est-ce que vous lisez? Jésus pleura. Vous trouvez pas ça bizarre? Donc, franchement, d'un côté, Jésus se réjouit, il sait que Lazare est mort. Là, il voit les sœurs qui sont effondrées et il pleure. C'est le seul verset de la Bible qui contient, je crois, que deux mots, Jésus pleura. Alors, est-ce que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare? Est-ce qu'il le savait? Mais bien sûr, il le savait. Alors, pourquoi il pleure? Vous auriez pleuré, vous? Vous auriez dit, t'inquiète. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Ne pleure pas. Alors, c'est le verset peut-être le plus court de la Bible, mais c'est peut-être un des versets les plus intéressants. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Vous savez, Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu savait qu'il allait montrer sa gloire. On l'a lu, cette maladie n'est pas à la mort, elle est à la gloire de Dieu. Jésus, qui était en communion avec Dieu le Père, savait très bien ce qui allait advenir. Mais ce qui nous prouve... Écoutez bien, frères et sœurs, c'est important ça dans l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, ça fait du bien de savoir que le Seigneur a compassion de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en avez traversé des épreuves dures? Bon. Quand on traverse, vraiment, parce qu'il y a des épreuves, mais c'est des petits bobos. Mais il y a des épreuves, c'est vraiment sévère. Le deuil, entre autres. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il est en train de partager la douleur de ses deux sœurs. Puisqu'il pleure. Il aurait pu continuer à se réjouir, non. Mais ça nous prouve que malgré le fait qu'il soit tout puissant, Dieu n'est pas indifférent à vos peines. Vous en avez de la peine des fois? Ça vous arrive de pleurer? Ça vous est déjà arrivé de pleurer? Et si ça ne vous est pas arrivé, c'est qu'il y a un problème, mais c'est normal de pleurer, vous savez, c'est normal. Dieu sait ce que l'on ressent quand on souffre. Vous savez, moi, il y a un verset que j'aime beaucoup dans les psaumes, c'est « Il entend la voix de mes larmes ». Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Cette fois, je crois, dans les psaumes, oui, cette fois, si je me trompe, je ne sais pas sûr, il est parlé des larmes. Mais il l'entend la voix de nos larmes. Je ne sais pas quel pasteur a dit, les larmes, ce sont des paroles liquides. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette parole, parce que c'est vrai que ça exprime vraiment quelque chose. Vous savez, c'est bien de savoir que quand on souffre, le Seigneur, il a compassion de nous. Vous savez, moi, je me souviens, quand j'étais petit, quand je préparais cette étude ce matin, je pensais à ma mère. Ma mère était d'une tendresse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et quand je me faisais mal, elle me disait, « Eh bien, ça sera guéri avant que tu te maries. » Oui, ça me faisait un bien énorme. Mes parents, ils avaient une tendresse. Ils le savent, ils se sont convertis après, croyez. Ma mère, elle est au ciel. Bon. Mais ma mère, je me rappelle, ça sera guéri avant que tu te maries. Je me rappelle une fois, je m'étais blessé, vraiment blessé. J'ai encore la cicatrice, là. Vraiment, mais j'étais en sang et tout. Eh bien, c'est ta faute. Mais tu verras, ça guérira avant que tu te maries. Ça me rappelle tout le temps quand je me fais mal, je pense à ma mère qui me dit ça. Ou alors les entraîneurs de... Vous avez déjà vu des entraîneurs de boxe dans des films, hein? Allez, il faut souffrir. Il faut souffrir pour gagner. Vous savez, il y a des gens, ils sont bons dans la consolation. Heureusement que notre Seigneur, quand on souffre, il est à côté de nous. Vous savez, Dieu sait ce qu'il va faire, mais je vous assure que sa connaissance ne l'empêche pas d'être compatissant, que son nom soit béni. C'est important de savoir que quand vous souffrez, si personne ne vous comprend, lui, il vous comprend. À tel point qu'il est même dit que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Quand on ne peut plus parler, quand on ne peut plus s'exprimer, quand on est tellement épuisé qu'on n'a pas envie de prier. Ça vous est peut-être arrivé, vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez même plus parler. Oui ou non? Eh bien, que Dieu soit béni pour sa consolation. Vous savez, c'est important ça. Malgré sa puissance, il est là. Oui, cette maladie, elle n'est pas à la mort. Le Seigneur, il a compassion de nous. Elle est pour la gloire de Dieu. Et Jésus n'a qu'un but. C'est que tout serve à la gloire de Dieu. D'ailleurs, regardez dans Jean, on n'est pas loin, dans Jean au chapitre 17, au verset 4, il le dit. C'est important ça, mes frères et sœurs, parce qu'on est tellement dans le flou, dans le brouillard, qu'on ne comprend pas ces choses. Jésus, regardez ce qu'il dit dans sa prière sacerdotale. Jean chapitre 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Vous n'aimeriez pas pouvoir faire la même chose? Il dit, « Seigneur, sur la terre, moi je vais te glorifier. Tout ce que je le ferai pour ta gloire. » Vous n'aimeriez pas que ça soit ainsi? Si, on peut y arriver. On peut y arriver, justement, au travers d'une bonne réaction dans les épreuves. Jésus n'a qu'un but, c'est que le nom du Seigneur Dieu soit glorifié. La mort de Jésus n'avait qu'un but, de glorifier Dieu. Vous savez, quand Jésus était quand même sur la croix, franchement, bon, on le sait comment ça se termine, etc. Mais imaginez-vous tout ce qui a dû se passer dans la tête des disciples. On pourrait dire, mais ça ne sert à rien. Et puis, est-ce que, bon, d'accord, mais Jésus aurait peut-être pu empêcher la souffrance. Après tout, tiens donc. C'est une question que je vous pose, qui me vient à l'esprit. Est-ce que Dieu, Tout-Puissant, aurait pu empêcher la souffrance de Jésus de Gethsémané au calvaire? Eh bien, la vie fait que quand on est blessé, on souffre, oui ou non? Et Jésus n'a pas empêché, Dieu n'a pas empêché cette souffrance, Jésus a souffert, il a extrêmement souffert. Est-ce que c'était pour la gloire de Dieu? Eh bien oui. Vous croyez, eh bien on ne serait pas là, hein? Il n'y aurait personne au ciel. Le ciel serait vide, complètement vide. Si Jésus n'était pas mort sur le bois de la croix. Est-ce que ça valait la peine que Jésus souffre alors? Est-ce que ça valait la peine que Jésus souffre, qu'il soit ensanglanté? Est-ce que ça valait la peine? Eh bien oui, vous voyez, comme quoi les épreuves, ça sert toujours à quelque chose. Il n'y a rien que Dieu ne permette. Ce miracle, la suite, vous la lirez chez vous, mais ça permettait que plusieurs se mettent à croire en lui. Oh, il y a des gens qui ont fait l'inverse, on peut le lire, remarquez. Regardez, Jean chapitre 11. Il est dit au verset 45, « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. » Donc, vous voyez, il y a eu un travail extraordinaire qui s'est fait. Ce soir encore, et dans le monde entier, des millions de gens au travers des siècles ont été bénis par cette histoire. Même si au verset 10 du chapitre 12, ça n'a pas plu à tout le monde. Regardez un peu comment ont réagi les religieux, comment ils ont bien réagi. Jean chapitre 12, verset 10. Regardez comment ça leur a plu. « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi... » Lazare, vous avez vu comment ils étaient bien les religieux? Vous avez vu? Ça fait, c'est incroyable. Hein? Parce que vraiment, après on ne va pas parler là-dessus, c'est un peu compliqué. Dieu est tout puissant, mes frères et sœurs. Il est plein de compassion. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il permet. Il peut permettre des choses terribles. Il y a des enfants qui naissent mongoliens. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Je vous dis ça parce que j'ai lu l'histoire il y a longtemps de ça, il y a longtemps, c'est passé dans un hôpital aux États-Unis. C'était une femme, jeune femme, d'un serviteur de Dieu, qui a accouché d'un enfant mongolien. Donc, quand elle a accouché, les infirmières ont pris l'enfant, ils ne savaient pas comment lui dire, ils l'ont dit au mari. Le mari était un jeune pasteur, il est parti voir un autre pasteur et il lui a donné ce verset, c'est dans le livre de l'Exode. Exode, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, 4, si je ne me trompe pas. Il lui a lu ce verset. On peut le lire si je ne me trompe pas. Exode, c'est Exode 4. Attendez, je peux... Aïe, aïe, aïe. Oui, Exode 4, verset 11. Alors, le pasteur lui a dit, écoute, Dieu est tout puissant. Alors, il lui lit ce verset, Exode 4, verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? L'Éternel. Et cet homme, il a été touché par cette parole et il appelle sa femme. À l'époque, on passait par les standardistes. Et la standardiste, qui était une femme méchante, attendait toutes les infos pour les colporter. Elle a entendu ça. Cette femme a été bouleversée. Quand ce pasteur a dit à sa femme, écoute, voilà, je te le dis, etc. Voilà, on a eu un bébé, etc. Il est mongolien, etc. Alors, elle lui a cité. Bon, ça s'est bien passé. Le dimanche, au culte, dans l'église à côté, il y avait 60 infirmières. Et je crois qu'il y en a une trentaine qui se sont convertis. Alors je vous dis ça parce que ce témoignage m'est venu à l'esprit là maintenant. Mais je pense vraiment que Dieu il sait ce qu'il fait. Est-ce que ça valait le coup pour le salut de tant de personnes? Moi je crois que Dieu il sait ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Regardez cet autre texte dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Il y a des textes, il faut les méditer, mes frères et sœurs. Il faut lire la parole de Dieu, il faut la lire, il faut s'en nourrir, il faut s'en abreuver, il faut en être saturé. Voilà le mot que je cherchais. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16, 17 et 18. Trois versets que je vous encourage à méditer. Regardez bien ce que Paul dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car, regardez bien. Nos légères afflictions, alors quand vous lirez ce que l'apôtre Paul a vécu, pour moi, je n'appelle pas ça des légères afflictions. Lui, il appelait ça des légères afflictions. Du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, il faut mettre en opposition les légères afflictions et le poids éternel de gloire. Il parle d'un poids, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisible, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il rappelle dans ce texte que la souffrance, elle est passagère, même si ça peut durer des années, il n'empêche qu'elle est passagère, alors que les récompenses, elles sont éternelles. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Toutes les épreuves, si elles sont acceptées, produiront un poids de gloire. Vous le croyez, ça? Eh bien, si vous ne le croyez pas, bien sûr, ça va être difficile. Alors, c'est vrai, quelqu'un pourrait dire, oui, d'accord. Lazare, il est ressuscité. Moi, ma femme, elle est morte. Elle n'est pas ressuscitée. Alors, c'est bien joli, mais... Alors, écoutez-moi bien. Lazare, il a pas vécu éternellement. Est-ce qu'il est mort pour de bon après? Oui, il est ressuscité, mais il est mort. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Et soyez sérieux. Parce que moi, vous savez, la douleur d'un pasteur, c'est de voir des gens qui rétrogradent. Ça fait pitié. Un évangéliste, lui, il est malheureux parce que les brebis ne rentrent pas dans le troupeau, mais le berger, il est malheureux parce que les brebis sortent du troupeau. Et croyez-moi, bien sûr que cette histoire, elle est là pour que nous comprenions toutes ces choses et que nous étudions sur l'adversité. Parce que c'est facile de lire, considérer les diverses épreuves comme un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Moi, tous ces textes, je les ai appris par cœur. Et je peux vous les réciter. Mais le problème, il ne faut pas qu'il soit là. Le problème, il faut que la confiance, elle soit là dans le cœur. Et que vous puissiez dire, Seigneur, oui, tu as permis ça. Tu as permis, j'ai perdu un enfant. C'est quelque chose de terrible. Mais dites-moi, est-ce qu'au fait, nos bien-aimés ne ressusciteront pas un jour? Au fait, est-ce que les chrétiens ne ressusciteront pas? Pour de bon? Alors on peut dire, pas encore. Pas encore, voilà. Voilà. Pas encore, mes frères et sœurs. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. Vous croyez, mes frères et sœurs? Alors, la chose peut-être sur laquelle il faudrait conclure, c'est quand même la part des hommes dans cette affaire. Vous avez lu l'histoire? Dieu fait tout, bien sûr, mais il y a une chose qu'il demande à Marthe. Qu'est-ce qu'il demande à Marthe? Oui. Alors, il lui dit, au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Mes frères et sœurs, la clé, elle est là. Elle est là. Si elles avaient refusé, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, elles auraient souffert pour rien. Est-ce que Jésus aurait ôté, est-ce que Jésus pouvait ôter la pierre? Est-ce que Jésus pouvait parler à la pierre et dire, déplace-toi de 2 mètres? Est-ce qu'il pouvait parler à la pierre, le Seigneur? Ben oui. Il n'a pas marché sur l'eau, il n'a pas multiplié la matière. Est-ce que Jésus a multiplié la matière? Oui. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il a parlé à la mer? La mer, à côté, il a ouvert la mer rouge. Je veux dire, à côté de placer une pierre, c'est quand même autre chose. Mes frères et sœurs, il y a des choses que Dieu nous demande. Dans l'adversité, Dieu nous demandera une chose. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout expliquer. C'est vrai qu'il est dit que nous connaîtrons, comme nous avons été connus, quand nous serons avec le Seigneur, ce que tu ne comprends pas maintenant. Le Seigneur, il dit à Pierre, mais tu le comprendras plus tard. Ça sera sur la terre plus tard, ce sera dans le ciel plus tard. Ce n'est pas grave. Même si avec le temps, comme je le disais en introduction, beaucoup de situations s'éclaircissent. Une chose est claire. Si tu crois, donc si tu obéis, parce que le mot croire et le mot obéir, c'est exactement pareil. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe et Marie, je pense qu'elles ont dû le faire ôter la pierre, parce que ce sont de grosses pierres énormes qui pèsent 100, 200, 300 kilos. Elles l'ont fait faire, ou elles l'ont fait, c'est pas grave. Et il y a, je crois, dans notre vie des pierres qui empêchent de voir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, la foi, elle se limite. Écoutez-moi bien ce que je veux dire, c'est triste, mais c'est vrai. Pour beaucoup de gens, la foi, c'est limité à la réception de bénédictions. Seigneur, tu me donnes ci, tu me donnes là, et tu fais ça. Et comme je le disais tout à l'heure, et c'est vraiment la preuve qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont tout le temps en train de donner des ordres à Dieu, ce n'est pas bon du tout. Ou alors, il y a des gens qui limitent leur foi à ce qu'ils comprennent. S'ils comprennent ça, d'accord, ils l'incluent dans leur vie de foi. Il n'y a pas besoin de comprendre pour avoir la foi. Vous pouvez faire confiance à Dieu sur parole? Est-ce que vous pouvez croire Dieu sur parole? Parce que vous croyez vraiment l'histoire de l'enlèvement? Qu'en un clin d'œil? Non mais, au son de la trompette, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va se passer vite fait. Si ça se passait maintenant, je n'ai pas le temps de finir ma phrase. Au son de la trompette, tous les morts en Christ sur la terre depuis la mort de Jésus, tous, n'importe où qui se trouvent, ils vont ressusciter. Tous les corps vont rejoindre les âmes. C'est écrit ou c'est pas écrit? Tous les chrétiens, dans une fraction de seconde, dans un millième de seconde, puisqu'il dit un clin d'œil, le clin d'œil en grec, c'est la plus petite particule de temps. Quand je vois que les sportifs arrivent à diviser vous savez, les courses en millième de seconde. Millième d'une seconde, ça doit passer vite. Hein. Donc, ça doit être ça. Vous le croyez, ça, que Jésus, il peut, un clin d'œil, transformer des millions de gens qui sont morts depuis des décennies, des siècles, dans la mer, dans la terre? Vous le croyez, ça, qu'en un clin d'œil, tout ça, ça va se produire? Alors, mes frères et sœurs, ne doutez pas de la toute-puissance de Dieu. Il est tout-puissant. Sa part, vous inquiétez pas, il la fera. Et si certaines choses ne se sont pas passées comme vous le voudriez, faites-lui confiance. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ne limitez pas votre foi à ce que vous comprenez ou aux bénédictions, ce qui est vraiment enfantin. Au début, je le comprends, mais au fur et à mesure que nous avançons, la douleur, les épreuves ne devraient pas nous arrêter. Au contraire, cela devrait nous dire, bon, je veux choisir de marcher avec Dieu, je veux te glorifier. De toute façon, il y a des chrétiens, moi je le sais, il y a des chrétiens, je peux les voir 5 ans, 10 ans, 20 ans avant, après, ils sont toujours au même point, ils n'ont pas avancé d'un centimètre, ils sont tout le temps en train de dire, mais je ne comprends pas, j'aimerais avoir une réponse. Écoutez-moi, Dieu, il n'est pas obligé de vous donner une réponse. Par contre, ceux qui lui font vraiment confiance diront un jour, et c'est sûr, ça valait la peine. Vous le croyez ça? Vous croyez qu'un jour, les vrais chrétiens diront « ça valait la peine de lui faire confiance » Est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que vous pouvez dire « oui, je lui ferai confiance » Je n'ai pas compris cette épreuve. Ça ne s'est pas passé comme j'aurais aimé. Jésus n'est pas venu. Qu'est-ce que c'est ? En plus, il se réjouit. Après, il pleure. Mais tout ça, quand vous les étudiez, ces histoires, franchement, vous comprenez certaines choses. Mais la seule chose que vous devez faire, c'est une entière confiance. Il faut que l'épreuve soit l'épreuve de la foi. La foi, c'est l'épreuve de la confiance. La confiance, c'est le bon combat de la foi. Il y a des gens qui disent, oh, le bon combat de la foi, tu parles. Oui, parce qu'ils n'ont pas confiance. Quand vous avez confiance, le combat devient un bon combat. Mes frères et sœurs, je ne peux pas tout vous expliquer, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur sait pourquoi il intervient ou pourquoi il n'intervient pas. Faites-lui confiance. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Faites-lui confiance. Et vous verrez quand on sera dans le ciel, tout le monde, on dira tous, ça valait la peine. Je ne sais pas dans quelle langue on parlera au ciel, mais bien sûr que cette discussion n'aura pas lieu d'être, mais tous on sera convaincus que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour sa gloire. Nous sommes ses enfants. Il ne se moque pas de nous, le Seigneur. Il ne joue pas avec notre santé. Il ne joue pas avec nos nerfs. Le Seigneur ne s'amuse pas avec nous. Nous sommes ses enfants. Il sait nous protéger. Il sait nous garder. Il peut donner la vie, la reprendre. On l'a lu, vous l'avez lu avec moi? C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui la reprend. Oui ou non? Alors faites-lui confiance. Vous voulez le glorifier au Seigneur? Vous aimeriez dire sur votre lit de mort, je t'ai glorifié sur la terre? Franchement, vous aimeriez pas dire ça sur la terre? Je t'ai glorifié sur la terre? Franchement, ça ne serait pas un immense honneur de pouvoir dire ça? Eh bien, faites-lui confiance. Faites-lui confiance et vous pourrez le dire et vous aurez la joie de pouvoir le lui dire, je t'ai glorifié sur la terre. Ça vaut la peine de lui dire ça au Seigneur, je crois, quand on se trouvera devant lui. Terminons en prière, mes frères et sœurs. Terminons. En demandant à Dieu qui nous aide à considérer les diverses épreuves, comme une occasion pour Dieu de faire une œuvre. Mais mes frères et sœurs, terminons en lui faisant confiance. Et s'il y a une pierre, si Dieu vous dit fais ça, si Dieu vous dit fais ceci, pardonne, ôtez la pierre. Le miracle n'aura jamais lieu. Si vous n'ôtez pas la pierre, si vous ne faites pas ce que Dieu lui demande. Les théologiens, bon, j'ai lu plusieurs histoires où on dit que le tombeau de Lazare est en profondeur à 35 marches, de 35 marches. Et que quand Jésus a dit « Lazare sort », le mort est sorti, enveloppé de ses bandes, bien sûr. Donc, le corps a été expulsé, si permettez-moi l'expression, de son endroit de 35 marches. Il est tout puissant, le Seigneur. Mais mon frère, écoute-moi, mon frère, ou ma sœur, quand tu te tiens devant Dieu, si Dieu te montre quelque chose, fais-le. Fais-le. Sinon, le miracle n'aura pas lieu. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Jamais nous ne te remercierons assez pour l'œuvre du calvaire. Mais Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants de ce que tu as permis que nous ayons ta parole dans notre langue. Vraiment, Seigneur, merci. Nous en profitons pour te prier, pour tous ces traducteurs qui, en Afrique en particulier, travaillent pour traduire ta parole dans ces pays où ils ne l'ont pas encore. Jamais nous te remercierons assez, Seigneur, pour la croix et pour la richesse de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous aussi te glorifier dans nos épreuves, afin que ce poids éternel de gloire nous soit notre partage lorsque nous te verrons. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.